chez le roi. Marie-France Guimaroche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. Dans la rubrique « Quelle histoire ?» du magazine Point de vue, Joël Chevet suit pas à pas Louis XIII à Versailles pour le repos d'un roi. Scène à la démesure de Louis XIV, le plus étincelant des monarques d'Europe. Versailles n'était pourtant à l'origine qu'une maison de chasse. La campagne de son père. Louis XIII, qui aimait à se retirer de loin de la cour et de sa famille, sur cette terre dont il était devenu seigneur le 8 avril 1632. Le 24 août 1607, le futur Louis XIII, âgé de 6 ans, assiste à l'une de ses premières chasses dans un petit carrosse posté sous le moulin à vent couronnant la butte du village de Versailles. Enchanté, il voit deux lévriers prendre un levrault et des cailles et son propre épervier saisir deux perdreaux. Comble de bonheur, il voit même un renard dont il aurait voulu couper le cou avec son épée, écrit son médecin Jean Hérouard, dont le précieux journal de santé permet de reconstituer presque quotidiennement son emploi du temps jusqu'en 1628. À Saint-Germain-en-Laye, où le dauphin passe son enfance, son père, Henri IV, court le cerf et le sanglier et chasse aussi autour de Versailles, dont la seigneurie est détenue par la famille très en cour des Gondi, originaire de Florence. Louis XIII revient à Versailles en 1617, 10 ans plus tard. Il est alors un cavalier hors pair et un chasseur émérite, mais il est surtout le très jeune roi qui a conquis son indépendance en faisant assassiner Concini et en exilant sa mère Marie de Médicis à Blois. Il est aussi l'époux encore adolescent d'Anne d'Autriche, dont il est amoureux malgré des débuts conjugaux catastrophiques et dont il espère se rapprocher dans une résidence plus intime que le Louvre, Saint-Germain ou Fontainebleau. Il songe au château de Madrid, à l'orée du bois de Boulogne ou à l'Olympe, à Issy, que lui a légué la reine Margot, mais il ne prend pas de décision. En juillet 1619, il organise une chasse à Versailles en l'honneur du mariage de sa sœur avec le duc de Savoie, puis il revient en 1621. Décidément, le lieu lui plaît. Vaste lande, mollement vallonnée et coupée de bois et d'étangs, gibier abondant et situation idéale du village sur une colline au croisement de deux grands chemins, l'un venant de Saint-Germain par Marly et l'autre de Paris par Meudon. En 1622, la reine est enfin enceinte, mais lors d'une course joyeuse avec Madame de Luynes et Mademoiselle de Verneuil dans la grande salle du Louvre, elle glisse, chute et fait une fausse couche. Louis XIII pleure, la rejette et cherche un refuge loin d'elle et des complots de sa mère et de son frère revenus à la cour. Versailles sera ce refuge où il décide de faire bâtir une maison en 1623. Il la veut modeste et rustique, afin de n'y aller qu'avec ses compagnons de chasse, grands veneurs, grands fauconniers, grands louvetiers et autres officiers de vénerie. Payé sur sa caisse privée, le chétif château de Versailles, de la construction duquel un simple gentilhomme ne voudrait pas prendre vanité, écrit alors le maréchal de Bassompierre, répond à ses vœux. Il en a dessiné les plans, en s'inspirant des traités d'architecture de Philibert de Lorme. Un quadrilatère avec un corps de logis et deux ailes en retour formant une cour carrée, une basse-cour et un jardin. Le tout entouré de fossés et d'un rempart bastionné avec pont-levis et herse. Les murs sont en moellons crépis, les parquets en sapin et seules les toitures d'ardoise et les décors de plâtre donnent une illusion de luxe. Dès mars 1624, la demeure est habitable et le roi aide les ouvriers à monter son lit dans l'appartement qu'il s'est fait aménager au premier étage du logis. Le 20 mars 1610, peu de temps avant son assassinat par Ravaillac, Henri IV partait en guerre contre les Habsbourg et confiait à Marie de Médicis le gouvernement de son royaume. Entre deux, le futur roi Louis XIII sur ce tableau de Pierre-Paul Rubens. À partir de 1624, entre campagne contre les protestants, guerre contre le duc de Savoie et contre l'Espagne et complots intérieurs, Louis XIII fait de petits séjours dans sa maison. Il s'y lève très tôt et le curé de l'église Saint-Julien doit se tenir prêt pour la messe, quelle que soit l'heure. Puis il chasse, dîne à 11h et participe souvent à la préparation des mets et au service. Louis XIII en cuisine, qui l'eût cru ? Il chasse à nouveau l'après-midi, joue à la paume dans l'une de ses deux salles qu'il a fait construire, ou bien se consacre à ses jardins, déjà, de style renaissance alors, et à l'aménagement d'un grand parc ou garenne, pour lequel il fait réquisitionner quelques 40 hectares de terre. Ces travaux sont complétés par la construction d'un aqueduc par les frères Francini. Tous les fontainiers de Versailles seront ensuite appelés les Francines, la butte de Versailles étant dépourvue d'eau. Le 3 novembre 1626, il fait fièrement visiter son domaine aux deux reines. Mais comme aucun appartement n'est prévu pour elles, les voilà qui repartent après le festin et la chasse, bien sûr.
Thank you.
Mozart, bien sûr, avec l'Orchestre philharmonique de Berlin, Karajan était à la baguette. S'il aime l'architecture, Louis XIII n'est pas un bâtisseur. Et les deux châteaux de Saint-Germain et celui de Fontainebleau, en attendant ceux de Chantilly et d'Écouen, confisqués au Montmorency en 1632, suffisent à sa gloire et à sa folle passion de la chasse. À cette époque, il n'est plus écrasé de culpabilité face à sa mère, à laquelle il a préféré Richelieu. C'est à Versailles, lors de la fameuse journée des dupes, le 11 novembre 1630, qu'est née leur alliance orageuse, certes, mais indéfectible. Versailles, où le cardinal a imploré le pardon d'un roi bien décidé à garder le plus fidèle et le plus affectionné serviteur qui fût au monde, disait-il. L'amour a peut-être eu sa part dans cette magnanimité, car Louis XIII est passionnément, quoique chastement, amoureux de Marie de Hautefort. À la belle aurore, il récite des vers, joue de la guitare et parle oiseaux, chevaux et chasse. Est-ce pour lui plaire aussi qu'il décide de reconstruire Versailles? Encore faut-il régulariser les différents séquestres auxquels il a procédé, car les propriétaires lésés commencent à murmurer. Avec Jean-François de Gondy, premier archevêque de Paris, les négociations se passent au mieux. Le 8 avril 1632, le roi lui achète la seigneurie de Versailles en son entier, pour la somme de 66 000 livres, réglée par des fonds publics, ce qui l'a fait entrer dans le domaine de la couronne, alors que le parc et le premier château, financés sur sa propre cassette, lui appartiennent en privé. Il impose silence aux magistrats de la Cour des comptes et lance la construction d'un nouveau château avec l'architecte Philibert Leroy, dont il supervise les plans. Cet ensemble est agrandi et un deuxième appartement est aménagé en face celui du roi. Est-il pour la reine? On en doute. Est-ce pour Louise de Lafayette dont il s'était pris en 1635 et à laquelle, oubliant dans un moment de passion ou de désespoir ses devoirs de roi très chrétien, il offre d'être sa maîtresse et de la loger à Versailles? Scandalisée, la jeune femme entre en religion en 1637 et Louis XIII se retire à Versailles, d'où il écrit au cardinal « J'en suis à mourir ». Son nouveau château, en témoignent les gravures d'Israël Sylvestre, est un fringant édifice aux lignes élancées et colorées de rose et d'ocre pâle. Hérissé de toitures gris bleutées et rehaussé de ferronneries vertes et dorées. Il s'y rend en petit équipage pour quelques jours de repos une dizaine de fois par an. Exceptionnellement, il y signe un édit et y reçoit l'ambassadeur de Savoie et le duc de Parme. Mais pas la reine, même après qu'il se soit rapproché d'elle un soir d'orage de décembre 1637. Le futur Louis XIV naît en septembre 1638 et son frère Philippe en septembre 1640. Tous deux y sont envoyés avec leur gouvernante en octobre 1641 car la petite vérole sévit à Saint-Germain. Louis XIII s'y rend pour la dernière fois entre le 15 et le 18 février 1643. Le 21, il tombe malade et meurt trois mois plus tard à Saint-Germain. Versailles s'endort jusqu'à ce qu'un jeune roi de 22 ans de retour de la frontière des Pyrénées où il a épousé l'infante d'Espagne, s'avise que ce petit domaine paternel sur lequel il a chassé quelquefois est à l'abandon. Mazarin est encore à la tête de l'État, mais Louis XIV, dès sa visite en octobre 1660, se sent déjà le maître du jeu dans ce petit château de cartes dont il fera le plus bel atout de son règne. Deux portraits en majesté. Louis XIII par Philippe de Champaigne, vers 1639. Le roi, alors en guerre contre l'Espagne, est enfin père et a achevé son second château de Versailles. Le roi pose en cuirasse, recouverte de poignées et d'un grand col en dentelle. Son home noir, sur lequel il pose négligemment sa royale main, est orné du panache blanc d'Henri IV en plume d'autruche, agrémenté d'une aigrette rousse. Sa jambe gauche, complètement retournée, laisse voir ses élégants mollets. Quant à Anne d'Autriche, épouse de Louis XIII, elle est peinte vers 1620 par Pierre-Paul Rubens. Joli visage, diadème de perles, elle a revêtu une magnifique robe rebrodée d'or et ses manches gigots à crever sont bordées d'organza blanc arachnéen, comme l'immense collerette découpée qu'elle porte, effleurée par les boucles d'oreilles. Les célèbres ferrets autour du cou sont surmontés d'une énorme perle blanche. Marie-France Guimard-Roche vous retrouvera à Versailles dans une autre émission de Bienvenue chez le Roi, enregistrée et réalisée par Roland Richard dans les studios du Rocas de Radio Grand Ciel.